Bien-aimés, bien le bonjour en Jésus-Christ. Vous allez bien? Moi, je me porte bien aussi par la grâce de Dieu, ainsi que toute la famille. Alors, vous savez que nous prenons tous des vaccins et à un certain moment, il faut revenir peut-être 10 ans après pour prendre un rappel. Mais c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va prendre un petit rappel de tout ce que nous avons déjà entendu de la parole de Dieu, même ici durant ces derniers temps aussi, ces derniers dimanches par rapport aux études ITA. On va parler de la famille selon Dieu. Ce sera peut-être un rappel pour certains. Ce sera peut-être aussi une découverte pour d'autres. On va lire la parole de Dieu dans Genèse 2. Et on va lire le verset 18. Puis on va lire les versets 21 à 24. Genèse 2, verset 18 dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, verset 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. C'est un verset qu'on utilise souvent lors des célébrations de mariage. Et là, on voit que c'est Dieu même qui a institué le mariage. C'est Dieu lui-même. Il dit que l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. À sa mère et s'attachera à sa femme. Je reprends, Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Il dit bien à sa femme, il ne dit pas à ses femmes. Donc on voit que la famille commence déjà par un homme et une femme. Après le mariage, à la mairie, on donne un livret de famille au chef de famille. Qui est le père. Et après, s'il y a des enfants sur ce livre de famille, est inscrit tous les enfants, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10, ça dépend. La famille que Dieu a voulu, c'est un homme, une femme et des enfants. Alors que maintenant, nous voyons que dans la société, ils veulent tout changer. Ils veulent changer ce que Dieu lui-même a institué, a instauré. Il y a quelques années, ils ont créé ce qu'on appelle le Pax. Il fallait être paxé. Des années ont suivi dans certains pays. Ils ont adopté ce qu'ils appellent le mariage pour tous. D'ailleurs, nous, en France, durant le dernier quinquennat, on a voté cette loi. Tout ça déforme ce que Dieu a créé, ce que Dieu a voulu. Maintenant, deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se marier et c'est normal, on dira. Nos enfants qui vont venir, vont voir dans la rue deux hommes s'embrasser, ne vont même pas s'en occuper parce que pour eux, ce sera normal. Alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dans notre pays même, il y avait le ministère de la famille. Ils l'ont changé en ministère des familles. Tout ça parce qu'ils veulent incorporer les pacsés. Ils veulent aussi incorporer les mariages de personnes de même sexe. Et ils veulent aussi incorporer les familles monoparentales. Là, il ne s'agit pas de faire naître chez certains ou certaines la culpabilité quand je dis famille monoparentale. Parce que ça peut faire remonter aussi des douleurs. Et on ne veut pas émettre un jugement non plus. Mais il faut comprendre que ce n'était pas l'ordre établi par Dieu à l'origine. Dès que l'ordre que Dieu a établi n'est pas respecté, il y a des conséquences qui peuvent en dérouler. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Il y a beaucoup de familles qui sont brisées, des familles qui sont détruites. On a beaucoup de divorces. On voit des enfants qui sont dans la souffrance. Et parfois, il y a des situations conflictuelles qui génèrent des différends au point que certains enfants ne voient même pas, certains parents, pardon, ne voient même pas les enfants. Les enfants sont ballottés à droite, à gauche. Et comme il y a conflit, ben, il y a un des parents qui ne peut même pas voir son enfant ou ses enfants. De nos jours, les mariages ne tiennent plus. Avant, dans le temps de nos parents, même si c'était difficile, ils tenaient ferme. Maintenant, les mariages ne tiennent plus. Quelques années, et parfois même quelques mois. Tout cela, il y a quelqu'un derrière. C'est l'œuvre de Satan. Son but est de détruire la famille. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il donna responsabilité de la famille à l'homme. Ça ne veut pas dire pour autant que l'homme est supérieur à la femme. Genèse 3, versets 8 et 9, nous dit: alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Après avoir désobéi à Dieu, Adam et Ève se cacha. Mais quand Dieu a voulu qu'on lui rende des comptes, il n'a pas appelé Ève. Ou il n'a pas dit: où êtes-vous? Il a appelé Adam. Où es-tu? Ça veut dire que c'est lui le responsable. L'homme a un rôle au sein de la famille. La femme a aussi son rôle. Et les enfants aussi ont leur rôle. L'homme, il doit être un père aimant au sein de sa famille. Il doit être un père qui aime son foyer. Il doit être un père qui aime ses enfants. Tout père qui aime ses enfants, parfois il a des décisions difficiles à prendre afin de protéger les enfants du danger et peut-être même d'eux-mêmes. Si le père ne fait pas ça, les enfants risquent de souffrir plus tard. Le père doit aussi être un père qui aime sa femme. Parce qu'avant tout, avant les enfants, ils sont deux. Éphésiens 5, versets 25 à 31 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors la parole dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme le propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voyons que la parole de Dieu dit que personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il en prend soin. C'est comme ça qu'un homme doit aimer son épouse, comme lui-même. Le père doit aussi être un père responsable au sein de la famille. Il doit être sage. Il doit surtout être présent. Il arrive parfois que le père soit défaillant. Et quand le père est défaillant, toute la charge de la famille revient sur la femme. Et ce n'est pas ce que Dieu a dit au départ. Le père doit aussi être le garant de la famille. Il doit comprendre qu'il est là pour les autres. Il doit faire passer les autres, membres de sa famille, avant lui-même. Il doit faire des sacrifices aussi pour sa famille. Il doit anticiper les besoins de la famille. Proverbe 6:8 nous dit: Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. La fourmi n'a personne sur son dos. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. C'est comme ça que le père doit faire. Il doit faire en sorte que sa famille soit bien. Il doit faire les économies qu'il faut. Quand les temps difficiles arriveront, qu'il soit capable de parer à ses difficultés. Comme la fourmi, la fille. La fourmi prépare à l'avance de quoi manger. Ce père doit aussi être un père modèle, comme Christ, parce que Christ doit être son modèle, parce que Christ s'est donné pour l'Église. Il doit être un modèle pour sa famille, modèle pour son épouse, mais il doit être aussi un repère pour ses enfants. Le père doit transmettre aussi les bonnes valeurs à ses enfants. D'ailleurs, si un enfant voit son papa tricher, il fera sûrement la même chose plus tard. S'il entend son père dire des mots grossiers, à mon avis, un peu plus tard, il fera la même chose, il va répéter ça. Le père ne doit pas dire « Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. » Vous savez, ce qui va rester, c'est ce que je fais. Ce père-là doit avoir au sein de sa famille un comportement exemplaire afin d'avoir une bonne influence sur les enfants. Matthieu 5, verset 48 nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le Père doit aussi être un modèle spirituel. Le Père doit s'attacher à la parole de Dieu. Il doit se consacrer à la parole de Dieu. C'est ainsi et seulement ainsi qu'il pourra transmettre les valeurs de Dieu aux enfants. Vous savez, il y a une des raisons qui cause la destruction. Je ne dis pas c'est la raison, je dis une des raisons qui cause la destruction de la famille, c'est que le père ne prend pas sa place, il ne s'attache pas à la parole de Dieu. Il ne lit pas suffisamment la parole, il ne se consacre pas, il ne prend pas de temps pour Dieu. Et ça, quand ça arrive, même parfois dans les familles chrétiennes, c'est la débandade, c'est les problèmes dans la famille. Et la famille peut être détruite. Il faut que le père soit spirituel, qu'il prenne le temps de se consacrer à son Dieu. Deutéronome 6, versets 5 à 7 nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est comme ça que le père doit être. Il doit prendre la parole de Dieu au sérieux afin de pouvoir transmettre à ses enfants. Et là, le verset dit, « Tu te coucheras avec et tu te lèveras avec. » Le père doit être un modèle, un vrai modèle spirituel dans sa maison pour pouvoir transmettre les valeurs de Dieu. Si le père est spirituel, normalement il doit se laisser guider par l'esprit. Et s'il se laisse guider par l'esprit, ça veut dire qu'il se soumet à Christ. Et s'il se soumet à Christ, ça veut dire qu'il a les mêmes pensées que Christ. Et quand il a les mêmes pensées que Christ, il y a plus de paix dans la famille, dans le foyer, que de désordre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des frictions. Mais quand friction y aura, il saura se retourner vers la parole de Dieu afin de calmer les choses. Le père doit aussi instruire ses enfants selon la parole de Dieu. Proverbe 22:6 que le frère a cité ce matin. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est là aussi la responsabilité du père. Mais c'est aussi la responsabilité de la mère, parce que la mère aussi a aussi son rôle au sein de la famille. Le rôle de la femme au sein du foyer, premièrement, c'est d'aider son époux. Genèse 2, verset 18, qu'on a lu tout à l'heure, l'Éternel dit, il n'est pas affiché, Émile, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui fais une aide semblable à lui. La femme doit soutenir son mari. Elle doit l'aimer. Elle doit l'encourager. Parce que parfois, la charge de la famille, elle est lourde. L'homme a beaucoup de choses à faire, à penser. La voiture par-ci, le compte par-là, il faut sortir de l'argent par-là, il faut faire ça-ci. Il faut toujours avoir la tête, la tête est toujours bien remplie, la tête de l'homme. Donc, il a plein de choses à faire et il a vraiment besoin que sa femme l'aide. Et vous allez observer que tous les grands hommes, ils avaient toujours une femme à côté d'eux. Et souvent, c'était même la femme qui les poussait vers l'avant. Donc, la femme, son rôle aussi, c'est de porter son mari. Et aussi de prier pour lui. Il ne faut pas que la femme prenne la place de son mari, parce qu'il y a des femmes qui veulent prendre la place de leur époux, jusqu'à ce que ils éclipsent le mari des tâches qui lui incombent. Et c'est vrai aussi que il y a des femmes qui veulent prendre la place de leur mari tout simplement parce que le mari, il est absent. Ça, il faut le reconnaître aussi. Parce qu'il est défaillant dans son rôle. La femme doit être aussi soumise à son mari. Ça ne veut pas dire que le mari doit piétiner la femme. Ça ne veut pas dire que le mari doit être supérieur à sa femme. La femme doit être soumise à son mari tout simplement en le respectant. Il faut qu'elle ait du respect pour lui. Il faut qu'elle ait aussi une bonne opinion de son mari. Il ne faut pas qu'il y ait des commères. Vous connaissez ça aux Antilles, les commères qui viennent à la maison et la femme qui commence à médire son mari. C'est pas ça que Dieu demande. Éphésiens 5, 22, 24 nous dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Parfois, il y a des couples où le mari ne connaît pas Dieu. Ça arrive. Et que la femme, elle est convertie. Mais la femme peut gagner l'âme de son mari, la parole de Dieu dit. Tout simplement parce qu'elle a une bonne conduite. Et elle a du respect pour lui. 1 Pierre 3, verset 1 nous dit: de même, femme, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. si la femme se conduit bien et a du respect pour son mari, c'est déjà un livre qui est ouvert. Et nous arrivons aux enfants, parce que les enfants aussi leur rôle au sein de la famille. Et ils doivent avant tout obéir à leurs parents. C'est la moindre des choses. Mais selon la volonté de Dieu. Parce que nous voyons dans le monde actuel, les enfants font un petit peu ce qu'ils veulent. Et nous voyons aussi que les parents incitent les enfants à faire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Si un parent demande à un enfant de pécher, l'enfant n'a pas à obéir. Les enfants doivent honorer leurs parents, avoir du respect pour eux. Pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, c'est juste devant Dieu. Deuxièmement, parce que c'est un commandement de Dieu lui-même. Troisièmement, parce que cela est favorable à l'enfant. Il reçoit les instructions selon le Seigneur. Et quand il reçoit les instructions selon le Seigneur, il est heureux selon la parole de Dieu. Proverbe 12, verset 1 nous dit: celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Et quatrièmement, Dieu lui promet une longue vie sur la terre. Éphésiens 6, 1 nous le rappelle en disant: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et après, il dit: honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse, c'est que, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais l'enfant doit se laisser aussi corriger. Parce que les enfants n'aiment pas trop la correction. Et quand on dit corriger, on ne dit pas bâton forcément. Parce qu'on avait une jeune préado, et quand nous avions fait un petit partage sur la famille, et elle, quand on parlait de correction, elle voyait bâton à fort tout le temps. Je disais, mais la correction, c'est pas le bâton forcément. Mais pour elle, quand on parlait de correction, c'était bâton. L'enfant doit accepter la correction parce que cela lui est bénéfique. Et c'est par amour aussi que pour lui que ses parents le corrigent. Proverbe 3, verset 11 nous dit: mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Et la fin du verset dit: comme un père l'enfant qu'il chérit. Un père, une mère corrige son enfant tout simplement parce qu'il l'aime. En conclusion, bien-aimé, la famille selon Dieu, c'est d'abord un homme et une femme avec des enfants. l'homme et la femme ont la responsabilité de bien éduquer les enfants selon la voie du Seigneur. En suivant les ordonnances de Dieu, la famille vit bien, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des larmes, parce qu'il y aura toujours des larmes. Mais la paix régnera au sein de la famille. Et avant de terminer, je voudrais avoir vraiment une pensée pour toutes ces femmes qui élèvent les enfants toutes seules. Déjà, à deux, c'est pas facile. À plus forte raison, toutes seules. Il y a des contextes qui ont fait que ces femmes soient seules. Il peut y avoir le divorce. Il peut y avoir aussi le mari qui part parce que la femme s'est convertie. Ou alors, il peut même rester là, mais étant absent, il va voir ton Dieu. Et lui, il reste devant le canapé à ne rien faire. La femme peut être veuve aussi. Toutes ces femmes qui élèvent des enfants toutes seules, à ce moment-là, c'est Dieu qui devient leur soutien. Et c'est sur Dieu et sur Dieu seul qu'elles doivent s'appuyer. Que Dieu nous encourage, que Dieu nous soutienne, nous qui sommes des familles et qui nous a intégrés dans sa grande famille. Amen.